je vais parler de l'appropriation culturelle. Et première question, est-ce que c'est un concept juridique? Le titre de ma présentation, c'est « Comment apprécier l'appropriation culturelle à l'aune du droit ? » Est-ce que c'est réellement un regard juridique qu'il faut porter sur cette appropriation culturelle ou pas ? Est-ce qu'on est plutôt hors du droit ? On est purement en politique, discussion politique, et le droit n'a pas à intervenir dedans. Pourquoi pas ? Moi, je vais essayer de dire que ça pourrait être, ça pourrait devenir un concept juridique. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si on va dans les bases de données, par exemple en France, et qu'on tape appropriation culturelle, je trouve quasiment rien. Alors, je peux quand même trouver quelque chose. Par exemple, il y a, en 2019, il y a eu une interview qu'on a dans un journal juridique qui s'appelle Juristourisme, avec un petit commentaire qui dit « Oui, et d'ailleurs, on peut également convoquer le conflit apparu récemment, susceptible de prolongement judiciaire au Canada en particulier, concernant l'appropriation culturelle de coutumes et de traditions locales, celles de peuples autochtones ou premiers notamment par des artistes divers, confère Madonna en concert arborant une tenue berbère, véhiculant ainsi l'image d'un exotisme critiquable ou équivoque. La représentation graphique en BD risque de ne pas y échapper, parce que là, c'est un article sur la BD. Ok. Mais là, il n'y a pas de réflexion pour l'instant. La doctrine, c'est-à-dire des gens comme moi, peut-être comme vous également, bon, tous ensemble, on réfléchit pour savoir alors quelle est la place à donner à cette notion-là. Aujourd'hui, le travail est en cours. Ce qui est pour moi important, c'est de dire comment est-ce que j'ai ressenti mes premières impressions. Lorsque j'ai entendu parler de cette appropriation culturelle, du tac au tac, spontanément, je dis « mais c'est vraiment n'importe quoi ». On ne peut pas limiter la liberté de création comme ça. C'est une honte de dire bah « non, cet artiste n'a pas le droit de faire ça pour différentes raisons dans ces deux affaires, à faire cela avec Anata ». Non, mais spontanément, je me disais « ça, c'est du grand n'importe quoi ». Après, dépasser ce sentiment et dire « oui, mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire ? Quel est le débat ?» En fait, ce qui est intéressant, c'est de montrer que cette idée, cette émotion que j'ai eue, c'est clairement en rapport avec les raisons pourquoi est-ce que j'ai fait du droit. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que j'ai le droit de faire en tant qu'artiste ou auxiliaire de création. Je veux créer, je veux participer à cette vie culturelle ou peut-être même scientifique, mais en tous les cas, c'est ça qui m'intéresse. Et là, tout à coup, il y a des personnes qui m'empêchent, qui pourraient potentiellement m'empêcher de faire quelque chose. Je ne pourrais pas parler, moi, par exemple, de personnes qui ne sont pas moi, par exemple, je ne sais pas moi, de skinhead, parce que je ne suis pas un skinhead, je n'aurais pas le droit de faire un spectacle sur les skinheads. Alors, tout de suite, ce n'est pas possible. On ne peut pas commencer à mettre des barrières comme ça. Donc, c'est parce que j'avais un certain point de vue. Mais après, essayons de déplacer le point de vue. Essayons de prendre le point de vue de la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, la protection culturelle immatérielle. Là, il y a des notions, des objectifs. Pourquoi est-ce que ça existe, ces conventions internationales de 2003-2005 ? Quelle est leur efficacité ? C'est tout en débat. Il y a différentes questions. Comment est-ce qu'elles doivent être appliquées ? Est-ce qu'elles peuvent être invoquées par un juge, etc. Bon. On ne va pas rentrer dans ce débat-là, on va essayer de voir quelle est la philosophie de ces deux conventions. Alors, ce que moi je considère, donc c'est un travail de doctrine, donc on peut considérer que c'est faux, on peut considérer qu'il y a d'abord une question d'authenticité. Il y a cette idée qu'il faut réussir à protéger ce qui est authentique, et on peut le faire à travers cette protection d'un patrimoine culturel immatériel de diversité, et pas que d'autres adaptent, reprennent ce que d'autres cultures ont fait, le font à leur sauce. Et donc là, c'est un peu, pour être chauvin peut-être, on pourrait dire, ah ben non, un véritable plat français, c'est fait par un Français, c'est fait en France, et c'est pas fait par un Chinois, ou j'en sais rien. Il y a quelque chose qui a un peu du rapport avec ça, et qui moi, vu que je suis chauvin, je considère en effet que la meilleure tarte flambée, c'est en Alsace, et ce sera pas ailleurs. Donc, fatalement, j'ai un peu de ça. Mais on sent qu'il y a quand même quelque chose de vrai, que on peut concevoir qu'un Japonais arrive à faire un excellent repas français, ça j'en suis convaincu, mais imaginons qu'il n'y ait que pour connaître la cuisine française, il faille nécessairement passer par un cuisinier japonais, et que tout le monde arriverait à connaître la cuisine française qu'à travers les talents des Japonais. Ça c'est triste, peut-être. Là, il y a peut-être une question de conservation, réussir à faire qu'au moins on ait la possibilité d'avoir le choix d'avoir de la cuisine française faite dans les règles de l'art en France, etc. Et puis des choses un peu évoluées, faites avec d'autres inspirations, dans un autre contexte, et qui a aussi sa place. Mais il faut réussir à conserver, qui a un rapport avec la conservation des langues d'ailleurs. Et il y a une autre notion qui est peut-être un peu plus rare que j'ai trouvé ce matin, qui est cette idée d'intimité. C'est-à-dire que, dans un sens, s'il y a des personnes extérieures qui veulent connaître notre culture, s'approprier des choses, entre guillemets, ou en tous les cas, s'en imprégner, eh bien, il faut, entre guillemets, demander l'autorisation. Il ne faut pas que ça soit des intrus. Il faut qu'il y ait une certaine forme de politesse, presque. C'est pour ça que je parle d'intimité. Je suis chez moi, je vous invite, mais il faut mon accord au préalable. Donc, c'est la question de savoir, est-ce qu'on peut, pour toute la diversité, même biologique, est-ce qu'on peut aller dans des populations qui ont des médicaments pour leur demander de connaître quelles sont les plantes qu'ils utilisent, etc. Est-ce qu'on peut presque les forcer à faire ça? Est-ce qu'on est obligé de leur demander alors quelles sont vos histoires et quel est ce rapport? Là, il y a une question, à mon avis, à se poser. Et pourquoi est-ce que j'ai divisé ça selon les trois points? C'est pour le mettre en parallèle avec le deuxième concept de ma thèse, qui est le droit moral. Et en réalité, le droit moral est en quelque sorte la même chose, mais vue sous l'angle de l'auteur unique. L'auteur qu'on a l'habitude de concevoir, Victor Hugo par exemple, qui est un auteur. Les attributs, les caractéristiques du droit moral, c'est l'intégrité de l'œuvre. On n'a pas le droit de le modifier. On n'a pas le droit de dire que c'est une autre personne qui a fait cette œuvre. Il y a la question de l'attribution de la paternité de l'œuvre. Et il y a la question de faire connaître ou pas l'œuvre. Tout ça, c'est l'auteur qui a un contrôle là-dessus. C'est un droit de la personnalité de l'auteur sur son œuvre. C'est un droit extra-patrimonial. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'autorité, de légitimité peut-être, de pouvoir qui est reconnu au créateur. Et là, on parle de créateur, mais de créateur collectif, presque intemporel, qui est une communauté. Et là, on se place, il y en a un changement de paradigme qui évolue beaucoup. Il y a beaucoup de discussions là-dessus, sur le plan de la protection de l'environnement, sur la protection justement du patrimoine immatériel. Il y a des tentatives d'essayer de présenter peut-être des sujets de droit qui ne seraient pas des individus de chair et de sang, mais même peut-être des entités, des objets. Il y a différentes tentatives. Est-ce qu'il faut reconnaître la personnalité juridique à d'autres entités, pas uniquement à des organisations, ou reconnaître... En tous les cas, il y a des débats là-dessus. Comment faire pour peut-être changer de paradigme et reconnaître un droit à une communauté, qui est quelque chose qui est jusqu'à aujourd'hui pas évidente. Mais dans l'évolution des droits fondamentaux, on parle de temps en temps de différentes générations de droits. Et là, peut-être sur justement cette dernière génération de droits, on a la première, deuxième, troisième, je rentrerai dans le détail si vous avez des questions. Mais plus récemment, on parle de la question de la protection des minorités, la question de la protection de l'écologie. Et là, c'est une nouvelle approche des droits fondamentaux qui est reconnue, mais leur application pose problème. Comme vous le savez, il y a des grandes tensions, mais il y a un débat, il y a un combat pour réussir à faire avancer, reconnaître des droits et à changer les sociétés dans ce sens-là, la protection des minorités, de l'environnement, etc. Alors, ce que je vais essayer de dire assez rapidement, c'est comment faire pour définir l'appropriation culturelle. Lorsqu'on regarde dans les bases de données nord-américaines, cette notion est plus large. On parle par exemple d'équipes de football américains qui reprennent des symboles des Indiens. Et là, on parle déjà d'appropriation culturelle. Il y a des vêtements comme ce que je disais avec par exemple Madonna en concert arborant une tenue berbère. Elle n'est pas berbère, elle n'a pas à faire ça. Voilà, il y a toute cette question-là. Il y a une question de légitimité là-dessus. Il y a une question peut-être de vol. Il y a différentes questions là-dessus. Peut-être de violence, je conçois bien. Mais là, j'aimerais une seconde, peut-être plutôt rentrer pas dans une définition comme on dit en droit lato sensu, mais plutôt stricto sensu, un sens strict plus étroit, qui est plutôt la définition qu'on a dans ces deux cas, les affaires slaves et Kanata, la question des minorités qui essaient de protéger en quelque sorte une histoire. Pour moi, le rapport entre ces deux affaires, c'est essayer de protéger une certaine mémoire. C'est lutter non pas contre un génocide, qu'il y a eu par exemple en Amérique du Nord, mais non seulement un génocide, mais un génocide culturel. Comment faire pour que leur mémoire ne soit pas falsifiée, comment faire pour que il y ait la préservation de leur identité à travers les âges. Et c'est là, à mon avis, qu'il y a une tension. D'où la proximité que je défends avec les lois mémorielles qu'on a en France. En France, on n'a pas le droit de nier l'existence de l'Holocauste. On n'a pas le droit de nier l'existence de l'esclavage, de la traite négrière. Et ça pose de grandes questions parce que la France fait un peu figure d'exception de interdire de faire ça dans d'autres pays, dont par exemple aux États-Unis, c'est quelque chose qui est complètement inconcevable. Est-ce qu'on cette idée de loi mémorielle, ça va complètement à l'opposé de la conception américaine. Pourtant, en France, on a considéré que c'était quelque chose d'important. Et pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'important? C'est parce que la France a une histoire particulière. On ne peut pas tout le temps être in abstracto, voir l'artiste dans sa tour d'ivoire, on lui laisse toute la liberté. Non, on est en France, on a une histoire, on a réellement exploité, mené une traite négrière, on a réellement essayé de détruire l'essence même d'une partie de notre population. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de nous et on veut réellement plus jamais ça. Et malheureusement, il y a des forces politiques dans notre pays qui essayent de rétablir ce qu'on a eu avec Pétain, par exemple. Une certaine fierté des colonies françaises, etc. Il y a des forces comme ça. Et c'est une possibilité pour pouvoir essayer, dans cette lutte de pouvoir, réussir à atteindre ce que je considère et ce qui était intéressant, ça a été cité tout à l'heure, cette idée de vivre ensemble. Pour pouvoir permettre un vivre ensemble, il faut aussi permettre une limite à la liberté. Cette notion juridique de vivre ensemble, elle est juridique parce que la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu cet argument dans l'affaire du voile dans les établissements scolaires français. Comme vous le savez peut-être, en 2004, il y a eu une loi qui a dit que maintenant, on n'avait plus le droit de venir voiler, par exemple, au collège. Moi, lorsque j'étais au collège, j'avais des camarades voilés, ça ne me dérangeait pas. Mais plus tard, il y a eu cette loi qui a dit, par exemple, au collège, on n'a pas le droit de venir voiler. Et là, c'est un vrai débat. Et l'argument qui a été recevable par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est de dire que, oui, ça fait partie du vivre ensemble. Alors, je reconnais et je m'excuse que peut-être que je mélange un petit peu avec une autre affaire qui est celle tout simplement du voile intégral. Parler justement de vivre ensemble ou le fait d'être complètement séparé du reste de la communauté, ça c'était interdit parce que ça empêchait le vivre ensemble. Donc, il faudrait que j'aille un peu plus dans le détail pour que je vous dise exactement comment est-ce que les choses sont apparues dans telle affaire, etc. Mais en tous les cas, c'est un concept juridique et il y a cette notion de vivre ensemble qui peut permettre de limiter une certaine expression culturelle. Mais à l'opposé, il y a la peur du repli identitaire. Il y a cette idée que ça peut être une vision de pureté qui s'apparente à du fascisme. Défendre l'idée qu'on n'a pas le droit de s'exprimer parce que ça pourrait porter atteinte à telle identité, une certaine vision, ce sont des discours qui ont été aussi utilisés par l'extrême droite. Donc on voit là toute la tension. On voit que bizarrement, on peut avoir de l'extrême gauche qui aurait un discours similaire avec de l'extrême droite. Donc là, on voit toute la tension. Je réfléchissais et je me disais, mais essayons de défendre les personnes qui revendiquent un droit à lutter contre l'appropriation culturelle. Et je pense que pour pouvoir le faire, il faudrait peut-être changer ou lire différemment la notion d'appropriation culturelle, voir ça, quel est l'opposé d'appropriation culturelle. En quoi est-ce que l'appropriation culturelle est une chose mauvaise? C'est parce que ça contribue à l'aliénation. Ça contribue à l'aliénation de l'identité d'une population. Donc là, je pense qu'on peut utiliser Sartre, par exemple, qui parle très bien de ça dans, par exemple, Saint-Genet, qui a développé ses idées, etc. Ce qui est important dans le regard, l'identité qu'on a sur notre devenir, le regard de l'autre compte beaucoup. Et si les autres nous disent ce qu'a été notre histoire, ce que c'est nous, qu'est-ce que c'est qu'un juif, si les autres nous disent ce que c'est qu'un juif, eh bien, on peut peut-être, malgré nous, incorporer et accepter cette identité que l'autre nous renvoie. Et donc là, il y a un danger. Là, je reconnais bien qu'il y a un danger de permettre à l'autre, au vainqueur, de dépeindre de manière unilatérale ce qu'a été la réalité. Et je pense réellement que si je veux aller jusqu'au bout de ma logique, alors la grande majorité des films de western sont en fait devraient être interdits. Parce que c'est complètement un film qui justifie l'extermination de la grande majorité des Indiens, comme quoi les Blancs sont les gentils et les Indiens qui veulent violer la gentille femme blanche, mais heureusement le héros va arriver pour la sauver. Et c'est là qu'on se dit, ah mais mince, c'est vrai, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Alors ma conclusion, comment faire pour réussir à trouver une solution? La première, le premier élément qui est important, c'est de réfléchir au droit un tout petit peu différemment. C'est de concevoir que le droit, et lorsqu'on parle de liberté, on parle de droit-liberté, le droit de ne pas être contraint, de faire ce que je veux, entre guillemets. C'est une certaine façon de définir la liberté. On parle d'une liberté négative, selon certaines terminologies. Et il y a une liberté positive, ou liberté créance, qui est de faire que la société donne réellement la possibilité aux personnes de jouir de leurs droits. Et le problème là, c'est que les autochtones, ou les minorités en général, peut-être n'ont pas la même possibilité concrète de pouvoir s'exprimer. Ils sont, à cause du système, c'est peut-être pas si conscient que ça, mais dans les faits, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir s'exprimer, qu'il y ait une véritable diversité. Et donc lorsqu'on parlait tout à l'heure de subventions, et de donner des subventions, réserver des subventions aux minorités pour qu'elles aussi puissent raconter leur histoire, pour qu'il y ait plusieurs discussions et qu'il y ait réellement une discussion démocratique, eh bien, c'est une condition nécessaire. C'est-à-dire, oui à la démocratie, pour que la démocratie libérale puisse fonctionner, il faut que le système soit sain. Et pour que le système soit sain, comme ce que disait par exemple John Rawls avec sa théorie de la justice, il faut qu'on soit dans un bon système. Et il faut que dans le bon système, tout le monde puisse avoir les moyens concrets, la capacité, comme parle Sen, cet économiste indien qui parle de capacité pour empowerment, réussir à permettre aux uns et aux autres de pouvoir concrètement être acteurs de leur vie et donc avoir eux aussi une réelle liberté de création artistique et pas uniquement ceux qui sont une frange favorisée d'une population. Il faudrait réussir à créer ce contexte-là. Et le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est sur la question de la conséquence. Imaginons que demain, il y ait une décision de justice et qu'on arrive à la conclusion que là, il y a appropriation culturelle et donc on condamne. Mais on condamne à quoi? Quelle est la sanction? Est-ce que la sanction, c'est des excuses publiques? Est-ce que c'est une partie de nos bénéfices vont être redistribués à une association pour qu'ils puissent eux aussi faire une réponse, comme un certain droit de réponse, comme on pourrait avoir dans un journal? Il y a différentes solutions possibles, et je ne pense pas que interdire, empêcher l'expression du spectacle, ça soit une bonne chose. C'est triste. Je pense que même les personnes qui luttaient contre Slav et Kanata ne sont pas si sûres que c'était vraiment ce qu'ils voulaient. Est-ce qu'ils voulaient vraiment les censurer? C'est pas forcément là, ils voulaient revendiquer quelque chose. La censure n'était pas forcément la meilleure des solutions, d'autant plus que la publicité, à cause de la polémique, peut favoriser la renommée des spectacles et donc avoir un effet contre-productif, comme ce qu'on a avec Dieudonné lorsqu'il fait le spectacle mur et que tout à coup, tout le monde parle de son affaire et donc il peut jouir d'une certaine renommée, et ce qui est tout l'opposé de ce qu'on veut faire. Merci.